Vous écoutez
RMC. Et 9h-10h.
Votre vie numérique.
François Sorel.
Raphaël Grabli.
Il est 9h08, nous y sommes, c'est le week-end des experts. Vous le savez, le samedi, le jardin, la maison, la forme, la santé. Et on termine, bien sûr, par la tech, la vie numérique. Et Raphaël Grabli qui est avec nous. Rebonjour Raphaël.
Salut François.
Raphaël, donc tout à l'heure, c'est la rentrée. C'est la question qu'on se pose toujours, hein, et peut-être êtes-vous dans cette situation-là. Vous avez un PC qui commence à dater, qui rame au démarrage, tout est saccadé, enfin bref, c'est pas très agréable, et vous êtes prêt à investir quelques centaines d'euros peut-être pour changer de PC. Écoutez bien ce qui va suivre d'ici 10 heures. On va vous donner un maximum de conseils pour changer votre ordi.
Oui, ça devient un peu une tradition d'ailleurs, hein, notre émission de rentrée sur les PC, mais c'est normal, hein, parce qu'on on voit fleurir les pubs, les offres, on se balade. Hier soir, j'étais dans un magasin spécialisé en électronique, là, les offres PC, il y en a absolument partout. Et puis surtout, il y a tous les prix. Hein. On a des PC à 300 euros, on a des PC à 4000 euros. Donc l'idée, c'est de savoir, de faire un peu le tri, de savoir qu'est-ce qu'on peut acheter en cette rentrée, les nouveautés, est-ce qu'on peut acheter peut-être pour un étudiant, une étudiante, peut-être aussi les convertibles, hein, les tablettes aussi. Et qu'est-ce qui différencie aujourd'hui un PC d'une tablette d'ailleurs? On pourra se poser la question. Et avec nous, on aura un représentant d'Asus. Donc fabricant maintenant historique de PC.
Jonathan Angel sera là, qui est directeur marketing et communication chez Asus France, qui est une marque taïwanaise.
Qui fonctionne très 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 bien en France.
Voilà. Et puis au-delà de la marque Asus, Jonathan nous donnera des conseils pour quels sont les, on va dire, les clés pour choisir un PC aujourd'hui, parce que quand on regarde un PC, c'est vrai qu'il y a des étiquettes avec des mémoires partout, des gigas, des processeurs, etc. Il y a peut-être des petites astuces à avoir avant de choisir un PC.
Surtout, il y a énormément de références.
Bien sûr.
La différence avec autant le smartphone, on peut recommander des modèles précis. Sur du PC, c'est très compliqué, donc faut raisonner par type de configuration et selon les besoins.
Raphaël, dans un instant, on va parler de cloud aussi. Comment sauvegarder tous ces fichiers sur le cloud de manière sécurisée et intelligente, j'allais dire. Tu vas nous en parler dans un instant. Et puis, bien sûr, vos questions vie numérique sur les PC, sur le stockage dans le cloud. N'hésitez pas, hein, si vous avez des interrogations, profitez-en jusqu'à 10h. 3216, le standard RMC, Amina vous attend. Ou alors l'appli RMC, Direct Studio sur votre smartphone, Android, iOS, hein, vous avez l'appli RMC qui vous permet d'écouter RMC. Vous pouvez nous laisser un message. Laissez-nous votre numéro de téléphone, on peut vous rappeler dans la foulée. C'est ce qu'a fait Erwan d'ailleurs, il est avec nous au 3216. Bonjour Erwan.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Erwan. Bonjour Erwan, mais Erwan qui est dans sa voiture, j'ai l'impression.
Exactement, vous m'entendez mal?
Non, ça va, on vous entend bien, mais j'espère que vous êtes bien concentré sur la route en nous écoutant, quoi. Il n'y a pas de problème.
Bah oui, mais j'ai un bon copilote là que je marie dans quelques heures, donc du coup voilà, Edouard.
Très bien, parfait. Alors Erwan, on vous écoute, Raphaël vous écoute.
Eh bien écoutez, j'ai bien entendu votre introduction et effectivement c'est une émission spécialement pour moi. Je suis en pleine réflexion de changer mon ordinateur Asus qui rame, qui n'a pas de batterie, enfin bon bref, des stigmates que vous avez décrits juste avant.
Il a quel âge, Erwan?
Il a quel âge, Erwan ou l'ordinateur?
Bah, l'ordinateur, on aurait pu dire surtout l'ordinateur.
L'ordinateur, il a 4 ans. Il a 4 ans et effectivement, là, il commence un petit peu à dater. Il va sûrement passer par le fabricant, enfin le réparateur là, pour un peu le nettoyer. Mmh. Mais surtout, l'important pour moi aujourd'hui, c'est de gagner en mobilité de manière importante.
Ouais.
Parce que je fais beaucoup de déplacements. Et l'idée, c'est d'avoir un PC qui soit un peu performant pour tout ce qui est plan. Comme ZWCAD ou ce genre de choses, travailler des plans. J'ai pas besoin d'un PC performant pour tous mes déplacements, puisque je fais quasiment que de la bureautique, Excel, Word, etc. Mon idée, c'était de savoir si je transformais cet ordinateur en quelque chose de plus light, type tour bureautique, et puis prendre une tablette. Mais une tablette, quelle tablette en fait? Il y a tellement de références aujourd'hui, plutôt du 10 pouces, plutôt du 12 pouces. Voilà, c'est un petit peu ma question de ce matin, savoir comment orienter mon choix aujourd'hui.
Donc, oui, alors c'est intéressant parce que vous, en gros, pour résumer, vous avez un PC, mais vous vous dites, tiens, pour gagner en mobilité, peut-être que je peux laisser tomber le PC et me tourner vers une tablette. Et est-ce que la tablette aura les mêmes est-ce que je peux avoir les mêmes usages aujourd'hui avec une tablette qu'avec un PC? En gros, c'est ça, Erwan.
Exactement.
Hein.
Exactement.
Raphaël.
Après, la grosse différence tablette versus PC, c'est l'OS, c'est-à-dire le système d'exploitation. La tablette, c'est un OS mobile. Alors, les deux grands fabricants, autant sur les PC, sur les smartphones, il y a beaucoup de fabricants, autant sur les tablettes, il y en a trois, c'est Apple, c'est Samsung, c'est Huawei. Huawei en ce moment, moi je dirais de mettre un peu le haut là, parce que même si c'est une excellente marque avec tous les problèmes qu'il y a géopolitiques et les sanctions qu'il y a contre Huawei qui peuvent même peut-être toucher les mises à jour, je déconseillerais un petit peu Huawei en ce moment. Donc en gros, on a Samsung versus Apple.
Après, il existe des PC tablettes qui sont sous Windows.
Il y a des hybrides,
qui ressemblent à des tablettes et qui sont sous Windows.
Exactement. Alors là, on a évidemment chez Microsoft, on a chez Lenovo. Lenovo.
Bien sûr. Et peut-être même qu'Asus a des modèles.
Et Asus en a aussi quelques-uns, il me semble.
On en parlera tout à l'heure, oui.
Après, l'avantage quand même de ces tablettes purement mobiles, je trouve, c'est leur durabilité. Parce qu'on a des processeurs qui sont des processeurs mobiles, qui sont des processeurs en fait de smartphone, avec des optimisations qui sont, je trouve, meilleures sur la durée. Vous disiez un ordinateur, c'est 4 ans. Bon, normalement, c'est plus 5-6 ans. Mais après, ça dépend aussi du prix de l'ordinateur, évidemment. Si c'est un ordinateur d'entrée de gamme, oui, c'est 3-4 ans. Et si c'est du haut de gamme, on peut s'attendre à ce que ce soit plus longtemps. Mais si le but, c'est de la mobilité, c'est de la puissance, moi, je recommanderais une tablette. Ça peut être pas mal parce que j'avais lu... Alors, je vais prendre l'exemple de l'iPad Pro, par exemple, qui commence à 900 euros. Donc, c'est pas donné. D'ailleurs, le concurrent qui vient de sortir chez Samsung, c'est la Galaxy Tab S7 Plus, qui est canon.
Qui est super belle.
Qui coûte 949 euros.
Mais qui a un écran OLED magnifique.
Mais qui a un écran OLED.
Ah ouais.
Et ça, c'est assez exceptionnel. Donc, c'est vraiment les deux concurrents dans le haut de gamme. Après, je vous ai pas demandé votre budget, Erwan.
Hop là. Entre 500 et 1000 euros à peu près.
D'accord, ouais, donc vous avez un très beau budget. Donc, si vous êtes déçu par un PC qui dure 4 ans, à la limite, je vous dirais peut-être investissez pas mal, comme ça la tablette, elle durera plus que ça. La Galaxy Tab S7 Plus de chez Samsung, là, qui vient de sortir, franchement, en termes d'écran, c'est assez dingue. C'est vraiment très, très bon. L'iPad Pro, l'avantage, toujours chez Apple, c'est l'optimisation de la puissance. Et le processeur de l'iPad Pro, il est phénoménal. Et là, c'est une tablette qui équivaut d'ailleurs, je me souviens, c'est nos amis de chez Zeronet.com d'ailleurs, qui avait fait un comparo, qui avait comparé la puissance de l'iPad Pro à celle d'un MacBook Pro. Et la conclusion, c'était que l'iPad Pro était aussi puissant, donc ça coûte 900 euros, était aussi puissant qu'un MacBook Pro qui coûtait, je crois, 2500 euros. Donc, c'est-à-dire qu'on a un gain en puissance qui est assez phénoménal. Alors après, la contrepartie, eh ben, c'est que c'est du mobile. Donc, c'est des applications pour mobile, enfin pour iPadOS. Pareil, évidemment, chez Samsung. Mais maintenant aussi, ce qu'il faut souligner, c'est que sur ces tablettes, on a des claviers en accessoires qui sont hyper agréables. Moi, je travaille d'ailleurs...
Ils sont chers quand même, parce que les accessoires chez Apple, c'est cher.
Ils sont chers, mais après, il faut toujours comparer, mais même chez Samsung. Mais après, ils font comparer avec un PC. Si finalement, ça remplace un PC, autant comparer avec le prix d'un PC.
Mais est-ce qu'on a la même productivité? C'est parce que c'était un peu la question d'Erwan.
Sur de la
Word, Excel, etc.
Sur de la bureautique.
Oui.
Alors non, Excel, non. Excel, enfin, je trouve que l'Excel... Ouais. Pour Microsoft,
rien ne vaut un bon vieux PC sous Windows.
Un bon vieux PC, voilà. Si la contrainte c'est de faire de l'Excel, là non, la tablette c'est pas possible. Si c'est du mail, du web, du traitement de texte,
du Word, ça va.
Du Word et de la 3D si les logiciels sont compatibles. Et là, c'est hyper intéressant, comme je disais, parce que le ratio puissance-prix sur le marché, il y a pas mieux en fait. Mais après, effectivement, il faut que ça cadre bien les usages.
Pour compléter ce que tu dis, si par exemple vous faites de la retouche photo, là on peut conseiller l'iPad par exemple, ou une tablette, parce que la plupart du temps il y a un stylet qui est compatible.
Exactement.
Et qui est ou soit livré avec la tablette ou alors en option.
Chez Samsung ils livrent le stylet,
voilà,
chez Apple
il faut l'acheter. Et là vous avez en fait une ergonomie pour retoucher des photos, des choses comme ça, de créativité, en fait qu'on n'a pas sur PC, parce qu'il existe des stylets sur PC, hein, mais on n'a pas cette finesse, ce côté
perfectionné. Mais tu vois, si tu dis François, par exemple les architectes, maintenant il y en a énormément qui sont avec leur tablette et leur stylet. Ils travaillent sur tablette parce que le ratio puissance-prix est exceptionnel, qu'on a du coup des rendus en 3D, des plans avec des systèmes qui tournent très très bien, qui sont très fluides, qui est extrêmement mobile. Ils vont sur les chantiers, ils font leurs petits dessins, leurs petits projets, etc. Et donc c'est absolument super. Donc si ça cadre avec l'usage, c'est exceptionnel. Après, si on fait de l'Excel un peu pur et dur, non, là il faut un PC, il faut du Windows.
Voilà Erwan, c'était un petit sujet d'introduction hein, pour eh bien notre gros dossier qu'on retrouvera dans quelques minutes sur le fait de vous aider à choisir votre PC pour cette rentrée. Il y a aussi un autre paramètre qu'on n'a pas évoqué mais qu'on aura le temps peut-être d'aborder, c'est aussi le télétravail. Hein, Raphaël, c'est
vrai qu'on est
dans une situation aujourd'hui où non seulement on a un besoin d'un PC pour se divertir et pour peut-être travailler voilà au quotidien, mais avec le télétravail, il est encore plus sollicité.
Là, dès qu'on parle de télétravail, forcément, c'est plus dans la tablette. Là, on va dans le PC ou le Mac, hein, mais enfin l'ordinateur, entre guillemets, pur et dur.
Allez, on retrouve le conseil de l'expert de Raph.
RMC, ceci est notre structure, une sorte de programme de chargement.
Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique ?
Le tuto de Raph.
Et on va parler, Raph, de stockage. C'est bon moment aussi d'en parler parce que, je sais pas toi, mais moi, j'ai saturé la mémoire de mon smartphone avec les photos. Et d'ailleurs, je me rends compte que je fais trop de photos. Je fais beaucoup trop de photos et de vidéos. Et donc, au bout d'un moment, il va falloir faire le tri. C'est toujours compliqué parce qu'il y a cette photo, on se dit « Ah là là, mais elle est ratée, mais elle est rigolote parce qu'elle vous rappelle un bon souvenir, etc. » Donc, on peut les stocker sur le cloud. Mais bon, voilà quoi, il faut pas se tromper, bien choisir son cloud.
Oui, et c'est vrai qu'au niveau du cloud, pour la photo, c'est très pertinent. Là, surtout en plus, on rentre de vacances, donc on a plein de photos, plein de vidéos. On a peut-être aussi envie de faire un petit peu de tri hein, pour la rentrée. Et forcément, la question, bah, c'est quelle solution choisir. Alors, de façon plus générale, en fait, ça va dépendre un peu de la nature et du volume de ce qu'on veut stocker. Si, comme toi, c'est des photos de vacances, François, c'est vrai que le cloud, c'est parfait. Alors, pour moi, la référence, c'est quand même Google Photos. L'appli, elle est vraiment très, très bien faite. Elle est très facile à utiliser. Et surtout, pour retrouver les photos, justement, l'avantage, c'est qu'on a un système de recherche qui est très, très performant. Mmh. On peut rechercher les photos par date, par lieu, selon la nature de la photo, tu sais, avec l'intelligence artificielle. Moi, parfois, j'ai des photos de chiens ou de plage, et je tape juste plage ou chien, et ça va m'afficher toutes mes photos de chiens, parce que ça va analyser les photos et savoir qu'il y a un chien sur la photo.
En plus, ton chien, il est trop mignon, ah oui, il est franchement. Très mignon. Comment s'appelle-t-il déjà ?
Alors, elle s'appelle Basta. Bon, c'est elle pas tout à fait le mien, mais on nous le prête un peu. C'est un chien de famille, on va dire.
Il est super beau, franchement. Il a même son compte Instagram,
c'est vrai. C'est vrai. Donc, Google, et l'avantage aussi sur ces solutions, c'est que ça va utiliser ce qu'on appelle les métadonnées. Donc, le logiciel va savoir telle photo a été prise à tel endroit avec la position GPS et à telle date. Donc, si demain tu dis, tiens, je suis parti en Corse, tiens, je veux voir mes photos.
Je veux retrouver mes photos, voilà, d'été 2020.
Plutôt que d'aller voir, ah mince, c'était quand est-ce que, quelle date je suis parti, tu tapes Corse, et puis ça te sort toutes les photos de Corse. Donc, ça, c'est absolument génial, c'est gratuit en plus. Donc, moi, en photo, enfin, j'utilise Google Photos, je trouve que c'est la meilleure.
Après, il y a deux options, tu as vu, hein. T'as l'option, on va dire, où la photo est légèrement compressée.
Voilà.
Où c'est gratuit.
Exactement.
Et puis, si vous voulez vraiment retrouver la qualité originale de la
sans
photo
compression.
Sans compression, là, il faut payer parce
faut
que
payer,
vous achetez de la capacité de stockage.
C'est vraiment pas cher. Moi, c'est ce que je fais. Je paye, je sais pas, 3-4 euros par mois, je sais plus, mais franchement, c'est très intéressant. Après, sur la vidéo, c'est possible aussi. Forcément, on va saturer beaucoup plus rapidement l'espace de stockage, surtout si on fait la vidéo en 4K. Et surtout, d'ailleurs, si on veut faire, par exemple, du montage derrière, donc là, on change de domaine parce que là, il faut que ce soit accessible facilement. Donc là, il faut stocker en local. Alors, soit on a un PC, un Mac avec un gros stockage, mais en général, quand même, on va se retourner vers un disque dur externe ou alors un SSD externe. Maintenant, c'est des SSD externes. C'est-à-dire une technologie stockage qui est bien plus rapide au niveau des transferts. En gros, pour 100-150 euros, on a un SSD externe de 500 gigas. Et après, sinon, on prend un disque dur externe classique. C'est un peu moins rapide pendant les transferts, mais enfin, c'est pas forcément.
Là, c'est le meilleur rapport qualité-prix, on va dire.
Ah oui. En termes quantité-prix, forcément, pour 100 euros, on peut stocker 2 téraoctets. Donc le SSD, la différence, c'est quand on va le brancher pour transférer les fichiers, ça prendra 3 fois moins de temps. Après, si on n'est pas pressé, après tout, hein, on fait ça avant le repas et puis
on n'est pas obligé de faire ça tout d'un coup, hein, ou alors vous le mettez la nuit puis le lendemain.
Là-dessus, c'est vraiment une question de rapidité, mais un disque dur externe classique, c'est très bien. Je peux citer rapidement les marques de référence, mais on les retrouve un peu partout. Il y a Samsung qui en fait des très bons, Toshiba Oui. Toshiba est très très bon sur le secteur. Et après, il y a Seagate, S-E-A-G-A-T-E, et Western Digital, hein, qu'on connaît bien aussi. Puis il y a SanDisk, voilà. On les trouve partout. Et puis surtout, il n'y a pas un enjeu énorme sur le type de produit, sur le type de modèle. Tant qu'il y a une bonne capacité de stockage, que c'est une bonne marque, on a quand même rarement des mauvaises surprises. Et puis après, il y a un cas aussi plus simple, où si on veut faire son tri de rentrée, trier un peu l'administratif, où c'est plutôt des PDF, voire des Word... Là, il n'y a pas besoin de prendre une grosse offre cloud. Là, c'est plus s'organiser sur des dossiers pour pouvoir s'y retrouver. Et là, on s'embête pas. On va chez Dropbox, on va chez Google sur Drive.
Hein. Bien sûr.
On fait des
ou même chez Microsoft.
Ou OneDrive. Chez Microsoft, exactement. Ou chez Apple, si on a du matériel Apple. Et là, en fait,
on crée ces dossiers comme si on était sur notre PC.
Comme si on était à la maison, sauf que c'est à distance. On y accède partout sur smartphone. C'est très pratique. Si on est un peu plus pointu, on va dire, sur la sécurité, sur le chiffrement, on va chez P-Cloud, qui est un système suisse, qui est un peu plus haut de gamme.
Oui, forcément, c'est suisse. Oui, c'est plus sécurisé.
Et plus sécurisé. Et là, en ce moment, ils font
on peut stocker des RIB aussi, des relevés bancaires, sur le cloud suisse.
Oui, exactement. Si on a des quelques comptes, c'est stocké en local. Non, évidemment, on déclare tout au fisc.
Oui,
évidemment.
Évidemment.
Et alors là, par contre, c'est payant. Ça coûte 175 euros pour avoir 500 gigas à vie. Donc là, c'est pas de l'abonnement, on paye à vie, et je crois que c'est 400 euros si on va avoir 2 téra. Voilà. Donc c'est forcément un investissement de départ, mais après, c'est du chiffrement, sécurisé haut de gamme. C'est sûr que si c'est pour ces factures EDF, ça vaut peut-être pas le coup, quoi. Voilà.
Sauf si vous avez un gros secret avec la facture EDF.
Exactement.
C'est rare quand même, hein. Juste encore une fois pour compléter ce que tu dis, tu parlais de cloud, c'est vraiment génial le cloud, mais malgré tout, il faut avoir une bonne connexion internet, parce que si vous êtes
pour
à la
photos,
campagne
oui.
Et avec un ADSL, vous savez que l'ADSL, en fait, ce qui compte aussi, c'est que lorsque vous envoyez des fichiers, vous avez une très faible connexion,
oui.
Et si vous avez beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, ça va prendre des heures,
exactement,
des jours, des semaines, donc vérifiez aussi que vous avez une bonne connexion internet.
Il faut avoir une connexion montante, l'upload, pour que ça aille vite, et en général, c'est beaucoup moins rapide que la connexion descendante quand
voilà.
Télécharge, donc effectivement, tu disais, faut faire attention à ça. Bon, sinon, on va chez un copain.
Oui, voilà, on peut faire en 4G, mais il faut avoir un gros forfait 4G parce que ça va vite.
Il faut avoir un gros forfait 4G, effectivement.
9h25, la météo, et on revient. Comment choisir son PC de rentrée en 2020? Quels sont les critères importants? Quels sont les meilleurs rapports qualité-prix? Est-ce qu'il y a des...
RMC jusqu'à 10h.
Il est temps maintenant de faire connaissance de façon plus précise avec un ordinateur.
Votre vie numérique.
L'ordinateur s'installe chaque jour de plus en plus dans notre vie quotidienne. Cette machine, car ce n'est qu'une machine, va prendre une telle place dans notre société qu'on parle volontiers de révolution.
Une nouvelle race d'ordinateurs, les ordinateurs portables.
La révolution informatique est en marche.
François Sorel. Raphaël Grabli.
Une nouvelle race d'ordinateurs, les ordinateurs portables.
C'est très bien la voix des années
de l'ORTF.
De l'ORTF.
À vous, Cognac G, hein, Raphaël
Grabli. Exactement.
Alors, on va parler des PC, puisque nous sommes quand même le 29 août et que ça commence à sentir vraiment la rentrée. Peut-être envisagez-vous dans les jours qui viennent, là, de vous offrir un nouveau PC. Les promos vont fleurir. Seul problème, c'est que dans cette jungle des promos et des modèles, c'est compliqué de s'y retrouver. On va essayer de tout vous expliquer maintenant, Raphaël.
Oui, et en studio, pour en parler, on a Jonathan Angel, qui est directeur marketing et communication Asus France. Bonjour Jonathan Angel.
Bonjour Jonathan. Bonjour Raphaël, bonjour François.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, tout à l'heure, quand j'ai présenté Asus, j'ai dit que c'était le cinquième fabricant mondial, ce qui est quand même pas mal.
C'est pas mal.
Mais Asus...
Entre-temps,
j'ai appris, moi j'avais pas tous les chiffres pour la France, que c'est le premier vendeur de PC portables en France, devant la concurrence, donc HP, etc. Donc c'est vrai qu'on est très content aussi de recevoir Jonathan Angel pour nous présenter. Alors d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous présenter Asus? Parce que c'est vrai que, certes, c'est le premier en France, mais on connaît peut-être quand même un peu moins la marque que HP, Dell, on va dire les marques encore plus historiques.
Bien sûr, c'est naturel puisque Asus est plus jeune finalement. La société qui est née à Taïwan a 30 ans. Donc elle est née sur des composants informatiques, révolutionne un petit peu les composants informatiques avant de se spécialiser également dans les PC portables. Donc on est plus jeune comme marque, mais on a su effectivement se différencier, notamment en créant beaucoup d'innovations un petit peu disruptives sur le marché du PC. Et pour s'imposer dans le monde en partie, et surtout en France, où on a un vivier de consommateurs fidèles qui nous suit depuis longtemps et qui apprécie la marque.
Vous avez une communauté assez forte.
Tout à fait. On chérit la communauté, on essaie effectivement de la suivre et de toujours proposer des innovations. On a les gens qu'on appelle un peu les geeks, qui nous aiment depuis longtemps, notamment grâce aux cartes mères, aux cartes graphiques qui ont commencer l'informatique grand public et puis qui continue de nous suivre puisqu'on essaie de perpétuellement amener de la nouveauté.
Et alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la crise, du confinement, mais alors s'il y a un marché qui s'en est bien tiré pendant le confinement, c'est celui de l'ordinateur portable, alors que les smartphones, ça s'est écroulé. Parce que là, on s'est rendu compte de l'importance d'avoir un bon PC portable. Je ne sais pas si vous avez des chiffres sur lesquels vous pouvez communiquer sur la France. Est-ce que vous avez vu vos ventes exploser, même par rapport au marché en général?
Ouais, le marché du PC portable a explosé en sortie de confinement. Pendant le confinement, les usages des Français ont changé et effectivement, la transformation digitale a besoin d'être accompagnée par du matériel informatique présent pour faire du télétravail, accompagner les enfants qui vont faire des cours en ligne. Et on a observé des semaines comme des semaines de Black Friday en sortie de confinement.
C'est dingue ça.
C'est vraiment fou et on a, on va dire, depuis la sortie de confinement, entre 30 à 40% de croissance par rapport à l'année dernière.
C'est énorme. Donc, c'est dingue parce que finalement, on disait oui, le marché du PC stagne, voire régresse parce que finalement aujourd'hui, il est concurrencé par le smartphone, par la tablette. On a une crise épidémique majeure mondiale et d'un coup, bah, ça relance en fait un marché qui c'est-à-dire était...
On avait à la maison un PC qu'on utilisait pour...
Oui, de temps en temps,
pour réserver
comme ça,
ses vacances. Voilà. Puis là, on s'est rendu compte qu'en travaillant dessus toute la journée, il fallait une machine un peu plus solide en fait.
Exactement. Non seulement on avait un PC qui n'était pas forcément très neuf, on n'en avait qu'un seul.
Oui,
alors pour faire travailler les enfants, pour faire été travailler, si on est deux aussi à la maison, pour le loisir. Donc il a fallu renouveler les machines et augmenter le nombre de machines par foyer.
Alors question, je pense que beaucoup d'auditeurs se posent, c'est quoi le premier prix pour un bon PC, un PC?
Et après on accueille André qui nous attend au 32-16.
Et après un PC qui puisse tenir la route.
Alors ça dépend ce qu'on va définir par tenir la route. Quand on veut simplement faire de la bureautique, donc traitement d'email, un petit peu de traitement de texte, on va avoir des très belles offres autour de 300 €. Mais ça sera vraiment pour l'utilisation basique.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour 300 €, je peux avoir un petit PC qui fait le basique.
Qui tient la route, sur lequel on va pouvoir faire ses emails, aller sur Internet.
Regarder des vidéos.
Regarder du vidéo, un petit peu de traitement de texte. Il ne faudra pas trop lui en demander, il ne faudra pas lancer des logiciels.
Ça durera, enfin, je veux dire, est-ce qu'au bout de 2 ans, il est mort?
Non.
Plus, quand
surtout
même.
Si vous prenez du Asus, puisqu'on est, on fait attention à la qualité des composants, il durera plusieurs années.
Donc 300 €. Voilà, c'est le budget minimum pour avoir un PC, on va dire aujourd'hui.
Oui. En dessous, vous prenez des risques sur des produits qui risquent d'être pas très bien finis.
Très bien. Et quand on dit un PC qui tient la route, ça n'a rien à voir avec les PC qu'il y a dans les voitures autonomes. Hein, qui...
Exactement, ça c'est pas pour tout de suite.
C'était une blague, oui. Mais je me rends compte que, bon, finalement. André est avec nous au 32-16. Bonjour André.
Bonjour les experts, bonjour André. François, Raphaël et Jonathan.
Bonjour.
Moi, je vous appelais parce que on fait surtout beaucoup de photos. On fait pas du tout de jeux vidéo. Et donc, c'est difficile de trouver le meilleur produit. Alors, j'avais repéré, moi, Asus VivoBook S1712 FA AU 531T.
Ah, là, voilà la référence, André. Celle-là, je l'attendais. Je pensais que vous alliez me sortir une autre référence, mais c'est la bonne, André. Bravo.
Oui, je sais pas si c'est la bonne. En fait, ce qui est important, c'est 17 pouces, parce qu'en fait, quand on doit afficher, il faut que ce soit vaste. J'avais repéré i5, par contre, je ne sais pas à quoi ça correspond ce i5.
Alors, on va tout vous expliquer. Quel est votre budget, André?
Alors, écoutez, je vous dis franchement, je l'ai vu sur Internet, affiché 899, et en réclame à 599 €.
Voilà. En réclame, en plus? Waouh!
Oui.
Eh bien, dites-moi.
Ça, c'est un terme un petit peu désuet.
Non, mais c'est bien, attendez, ça me va. Est-ce que pour ce budget-là, on peut avoir un ordinateur 17 pouces, Jonathan?
En l'occurrence, celui-ci, il a une offre promotionnelle très intéressante. On en parlait effectivement un petit peu en introduction. Il y en a un petit peu pour toutes les bourses.
Oui.
Voilà, quand on a un produit qui est vers 800-900 € et qui est effectivement en promotion vers 500-600 €, ça devient très intéressant.
C'est une grosse promo, là.
C'est une très grosse promotion. On parlait de l'i5, effectivement. L'i5, c'est le processeur qui est à l'intérieur. Donc, c'est le processeur Intel. Intel qui est leader historique des composants sur l'ordinateur grand public. Donc c'est effectivement un très bon processeur pour accompagner vos usages. Vous évoquiez la retouche photo. Donc c'est quelque chose qui tiendra vraiment bien la route pour ce que vous évoquez.
Donc il peut foncer pour cette référence.
Tout à fait.
C'est vrai qu'il y a un avantage sur le marché des PC. On se moquait un peu de la référence parce qu'il y a beaucoup de références, mais quand même l'avantage c'est que du coup il y a souvent des promos parce qu'il y a tellement de références qu'il y a toujours des stocks de temps en temps à écouler quelque part.
Et puis André peut se permettre peut-être de prendre un PC qui a quelques mois ou peut-être un an finalement, parce que pour ses usages, c'est pas très grave d'avoir un PC qui a un an et qui va être en revanche décoté parce que bah, y a le nouveau qui est arrivé et donc il est en solde.
Exactement,
c'est ça aussi, non?
Exactement, les tout nouveaux qui sortent n'ont pas forcément la promotion et là on est sur des PC qui ont 6 mois, 1 an, qui sont de très très bonnes factures et qui vont vous suivre plusieurs années.
André, vous n'allez pas faire de montage vidéo, des choses comme ça
avec ce PC? Par contre, ce que je je me demande, c'est est-ce que la dalle est brillante ou est-ce qu'elle est mate? Parce qu'en fait, je me rappelle dans le temps, on parlait de Crystal Bright. Alors, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ou si c'est complètement obsolète.
Moi, je connaissais le dentifrice Ultra Bright, mais c'est peut-être la même chose.
C'était
non
Crystal Bright.
Ah, alors, Crystal Bright, d'accord.
Alors, et on avait des dalles donc bien brillantes. Et effectivement, pour la photo, il y a un meilleur rendu que ces dalles mates. Alors, est-ce que ce PC dont j'ai cité la référence a une dalle brillante ou une dalle mate?
Ça doit être écrit dans les spécifiques. Jonathan, est-ce que vous avez les deux, vous, chez vous, chez Asus?
Alors, les deux sont faisables. Alors, on a des centaines de références. Donc là, spontanément, cette référence, je n'ai pas la réponse. Mais je vous invite à regarder précisément, c'est écrit, effectivement.
Par contre, est-ce qu'on peut rappeler l'intérêt et l'inconvénient des dalles brillantes et des dalles mates? Parce que c'est vrai qu'on voit les deux et on se demande à quoi ça sert, pourquoi choisir l'une plus que l'autre?
Bien sûr, ça va être deux usages différents. Donc déjà, la dalle brillante va vous permettre, notamment en extérieur, quand vous avez ce qu'on appelle les nits, c'est l'unité de mesure de la brillance de l'écran, pouvoir avoir un très bon rétroéclairage.
Donc c'est la luminosité.
Donc là, on va avoir un écran qui sera très brillant, mais qui va peut-être avoir un rendu colorimétrique qui est un peu moins vrai, là où une dalle mate va être plus fidèle aux couleurs et permettre d'éviter aussi les reflets. Là où la dalle brillante, elle est brillante.
Forcément, il n'y a pas de reflets. Donc la dalle mate, souvent, est un peu moins puissante, c'est-à-dire qu'elle va être moins lumineuse.
Voilà.
Mais par contre, moins de reflets.
Exactement.
Et souvent, le plus cher, est-ce qu'il y en a une qui est plus cher que l'autre?
Pas ou c'est forcément, vraiment ça va défendre. Et puis, on a vraiment des gens qui préfèrent la dalle mate parce qu'au rendu à l'œil, ils ont une meilleure satisfaction.
En revanche, le tactile, c'est plutôt du brillant, non?
Exactement. Mmh. La technologie mate.
Parce qu'on n'a pas évoqué, mais bon, tactile. Évidemment, quand on achète un PC aujourd'hui, on a le choix. Soit du tactile, soit pas tactile.
Oui. Alors, quand on regarde vraiment un PC portable aujourd'hui, le tactile est vraiment minoritaire.
Ah oui.
Et quand on fait des enquêtes de satisfaction ou de besoins clients, on remarque que le tactile n'est plus une demande aujourd'hui.
Bah, c'est vrai qu'il y a eu
c'est
un effet de mode.
Parce que c'était la stratégie au départ de Microsoft. Hein,
oui, ils voulaient pousser le tactile. HP en a fait pas mal aussi. Ouais. Mais c'est vrai que le tactile, ça fait un peu gadget pour un usage PC. Et surtout, ça bouffe un peu de batterie. Ça consomme plus d'autonomie en général.
Voilà. Nous, on le recommande lorsqu'on a un convertible avec le clavier qui peut se retourner.
Ah oui,
ça prend du sens. Sur un PC portable classique,
oui, ça a moins
on ne va pas tendre la main vers l'écran.
Enfin, cela dit, moi, il m'arrive plusieurs fois de vouloir scroller mon ordinateur portable qui n'est pas tactile. Mais c'est dingue, hein, quand même. Et puis, on se dit, oh là là, zut, c'est vrai que ça marche pas. Puis, on passe pour un imbécile, quoi. 9h40, on revient dans un instant et on vous aide encore une fois à choisir votre PC de rentrée. Raphaël, on a encore plein de sujets à évoquer, l'autonomie, les usages aussi.
Oui, alors on va peut-être revenir rapidement aussi sur les Chromebooks parce qu'on a pas mal de questions sur Direct Studio sur les Chromebooks et comme Asus en fait, peut-être voir un peu la différence et l'intérêt d'un Chromebook.
Vos questions, tout comme notre auditeur qu'on a eu il y a un instant, 3216, l'appli RMC Direct Studio. Laissez-nous votre numéro de téléphone, bien sûr. À tout de suite.
RMC jusqu'à 10h.
Votre forme.
RMC 9h-10h.
Votre vie numérique.
François Sorel.
Raphaël Grabli.
Quasi 10h moins le quart. La fin de ce week-end des experts vie numérique avec Raphaël Grabli, notre invité ce matin, Jonathan Angel, qui est directeur marketing et communication d'Asus France. Le premier vendeur de PC en France actuellement.
Eh oui.
Et voilà.
Premier PC, c'est le cinquième au niveau mondial.
Et on essaie de vous donner un maximum de conseils pour bien choisir votre PC. Et avec Raphaël, on se posait la question, est-ce qu'il y a, on va dire, un minimum vital aujourd'hui quand on va dans ces grands magasins où on voit des rayons entiers de PC où on s'arrache les cheveux parce qu'on n'y comprend rien. Au-delà d'Asus, Jonathan, est-ce qu'il y a des minimums requis techniques auxquels il ne faut pas déroger? Je ne sais pas moi, la mémoire vive, le stockage, le processeur, etc.
Alors il y en a plusieurs, mais avant tout, ce qu'on recommande pour les personnes qui ne sont pas à l'aise, c'est d'avoir effectivement un avis d'expert pour que ça corresponde à leurs besoins, parce que les besoins vont être vraiment différents. Mais si on parle vraiment du minimum, nous on évoque souvent la RAM notamment, qui est la mémoire vive, comme le 4Go. 4 gigas de mémoire vive, c'est vraiment la base pour faire de la bureautique et essayer d'avoir du multitâche. En dessous, ça risque d'être vraiment limité.
Pour faire simple, la mémoire vive, c'est ce qui va faire que votre ordinateur va pouvoir faire plusieurs choses en même temps, en fait. Voilà, c'est ça.
Exactement. Et sur le stockage, donc pour stocker vos données, là aussi, il faut être vigilant. Si vous avez beaucoup de données à stocker, sous 128 gigas, ça devient vraiment léger. Mmh. Aujourd'hui, on a des smartphones dans lesquels on met 512, voire 1 téra de stockage. Donc, il est important de ne pas descendre en dessous.
Donc, pour tous ceux qui n'y comprennent rien, notez sur un bout de papier si vous voulez acheter un PC. Minimum 4 gigas de RAM. Personnellement, moi, si vous aviez moyen, je prendrais plus.
Ouais, 6 au
moins. 8 gigas, franchement, ouais. vous ne le regretterez pas et votre PC durera encore plus longtemps. Le stockage, minimum 128, mais c'est vraiment un minimum. Vaut mieux avoir plus parce que si vous commencez à stocker des photos, des fichiers,
des photos, un peu volumineux, des vidéos 4K, ça va très, très, très vite.
Voilà. Le processeur, c'est important, le processeur ou pas?
Très important.
Tout à l'heure, notre auditeur parlait d'i5. Il y a quoi? Il y a i3, i5, i7,
Intel,
c'est ça?
Il y a i3, i5 et i7. Et chez AMD, on a la même chose avec des R3, R5 et R7. Le i3 ou le R3, c'est l'entrée de gamme. C'est ce qu'on disait. C'est de la bureautique. C'est l'équivalent du 4 giga à peu près.
Et on a même du M3. Alors là, voilà, M3, c'est pour mobile. Enfin, c'est vraiment.
En dessous, ouais.
M3, on essaie d'éviter quand même. Ça veut dire que c'est vraiment la petite puce mobile qui.
C'est vraiment pour un ordinateur ou une tablette d'appoint.
Voilà, d'accord.
Donc on va quand même recommander de faire du i3 ou du R3 pour de la bureautique. i5, R5 pour un petit peu plus puissant, un petit peu de retouche photo comme on l'a eu avec notre auditeur. Et puis i7, R7, là on va chercher de la puissance du jeu vidéo notamment. Donc c'est pour
et souvent on voit forcément, parce que ça quand on connaît pas, on s'y retrouve pas, 8e génération, 9e génération, 10e génération. Est-ce que entre la 8e, la 9e, la 10e, est-ce que ça change beaucoup de choses?
Alors assez peu évidemment, il y a toujours de l'amélioration.
Oui.
Mais si vous avez des processeurs de aujourd'hui 8e ou 9e génération, ils tiennent tout à fait la route.
C'est ça.
Si vous avez des tâches très spécifiques et très poussées, tournez-vous vers la dernière nouveauté.
Autant prendre un i5 au lieu d'un i3, mais d'une génération précédente.
Voilà.
Mais ça tiendra bien la route, quoi.
Exactement.
Raphaël, tu voulais parler des Chromebooks.
Oui, on a pas mal de questions. Alors justement, parce que Asus fait des Chromebooks. Alors Chromebook, donc c'est un ordinateur qui n'est pas sous Windows. Hein. Ça fonctionne avec Chrome OS, qui est l'OS, le système d'exploitation de Google. Alors expliquez-nous. C'est un peu plus simple. C'est une sorte d'OS un peu plus mobile. Qu'est-ce qui est mieux sur un Chromebook et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire sur un Chromebook?
Alors le Chromebook, ils l'ont pensé pour être simple, léger, rapide, autonome. Mais il a des compromis. Souvent sur des Chromebooks, on va avoir peu de stockage. Le but, c'est d'utiliser le cloud de Google, donc le stockage en ligne de Google, pour pouvoir stocker ses données.
Donc ça veut dire qu'il faut avoir tout le temps une connexion Internet.
Ou alors un disque dur externe qu'on va brancher assez régulièrement.
Ouais, mais au quotidien, c'est vrai que ça veut dire que c'est
un ordinateur. Il est vraiment préférable d'avoir une connexion Internet qui est bien stable et potentiellement puissante pour pouvoir gérer ses données.
C'est pour ça qu'on va du Chromebook à 32 gigas ou 64 gigas.
Exactement. Mais c'est un point d'attention. Il faut être conscient qu'on achète un produit avec très peu de stockage. Après, le Chromebook, il est très simple d'utilisation, très intuitif, sécurisé automatiquement dans l'OS. Donc, on n'a pas besoin d'être expert, aller chercher un antivirus très particulier. Tout est maîtrisé sous l'environnement Chrome OS. C'est simple. Après, il y a la gestion des logiciels. Sous Windows est imbattable pour ça, puisque tous les logiciels au monde existent et sont compatibles avec Windows. Sur le Chrome OS, on passe par le Play Store. Tout ce qui est dans le Play Store est disponible pour votre Chromebook.
Comme un smartphone.
Exactement. Sur Android. Tout ce qui n'est pas sur le Play Store ne sera pas disponible sur votre Chromebook.
Mais alors, ça s'adresse à qui? Parce que moi, par exemple, un étudiant, c'est pas mal ça pour prendre des notes et envoyer des mails.
C'est parfait pour un étudiant qui ne va pas dépasser le cadre de la prise de notes, de la bureautique et également d'Internet.
Parce qu'il faut rappeler quand même l'avantage des Chromebooks. Alors, il y a des modèles haut de gamme, mais enfin, il y a des modèles qui sont vraiment pas chers.
Tout à fait, puisqu'on a peu de stockage,
ouais.
Généralement aussi peu de RAM, on va avoir des produits autour de 200, 300, 400 euros.
Aujourd'hui, on va dire qu'il y a quoi ? Il y a trois gammes de PC, l'entrée de gamme, le moyen de gamme, et puis le haut de gamme qui sert à jouer, etc., à faire du traitement vidéo et donc avoir le maximum de puissance. Quels sont les prix médians de ces trois gammes ? On le disait tout à l'heure, entrée de gamme 300, milieu de gamme et haut de gamme.
Le milieu de gamme, on est souvent sur du 500-600 euros. On dit dans notre jargon les 599 et 699 euros.
C'est là où se focalise vraiment le cœur du marché.
Ouais. Exactement, ouais. Entre 499 euros et 600 euros, là, on va avoir des bonnes solutions, comme on le disait, milieu de gamme, i5, un petit peu de RAM qui tiennent la route. Puis après, le haut de gamme, on va aller plus chercher les 1000 euros et plus pour des personnes qui veulent avoir des solutions plus puissantes et beaucoup plus design.
Et alors, je voudrais qu'on revienne sur une des nouveautés d'Asus, parce que là, c'est assez spécifique sur du haut de gamme, plutôt.
Ouais.
Vous faites des PC maintenant avec deux écrans.
Tout à fait.
Alors expliquez-nous à quoi ça sert déjà, comment c'est physiquement et à quoi ça sert d'avoir deux écrans sur un PC.
Alors les deux écrans, ils viennent finalement d'imagination de nos ingénieurs qui cherchent à sortir du statu quo. On s'est dit le PC n'a pas évolué depuis plus de 10 ans, il faut créer des choses nouvelles pour avoir une meilleure ergonomie. Donc on ajoute un deuxième écran au-dessus du clavier. Si vous regardez votre PC portable aujourd'hui, le clavier prend beaucoup de place. Alors que finalement, si on le met un petit peu plus bas, on arrive à avoir un second écran qui va venir être au-dessus du clavier. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir un usage comme si on avait un écran externe, mais sur votre PC. vous êtes dans le train, vous êtes en mobilité, vous avez deux écrans avec vous sur votre PC.
Alors, c'est pas un écran qui est aussi grand que le véritable écran.
Non,
c'est
une sorte de barre. La moitié de la taille.
C'est ça, c'est une barre, en fait, un peu... Enfin, c'est beaucoup plus petit, mais ça peut servir à quoi concrètement?
L'écran du PC, il occupe la moitié de la surface de votre partie basse, donc du clavier. Donc, c'est quand même assez conséquent. Il est parfait pour le multitâche. Quand vous allez avoir un document sur lequel vous travaillez et que vous voulez peut-être avoir votre musique, une vidéo ou un autre logiciel qui se lance en même temps, vous l'avez directement sous vos yeux.
Si on veut travailler et puis se lancer une petite vidéo YouTube ou quelque chose comme ça, on peut le faire.
Vous l'avez entièrement sous vos yeux. Et puis pour les personnes, nous on pense notamment aux créateurs de contenu plus productifs qui vont avoir des barres de tâches, qui vont avoir des, notamment sur Premiere, peut-être leur logiciel vidéo. Ben là, vous avez sur l'écran principal, votre vidéo que vous travaillez et en dessous tous les outils et palettes applicatives.
Et alors ces PC avec deux écrans, ça commence à partir de quel prix?
Alors, on a actuellement des très belles offres sur des produits à 1 500 €, avec des configurations agressives pour pouvoir justement faire de la retouche photo et vidéo et profiter d'un second écran qui va vraiment vous changer votre organisation.
Donc là, on est sur du haut de gamme avec des processeurs, de la mémoire,
avec une qualité
de
finition et de design qui est si représentatif.
Oui, pour qu'on s'y retrouve, ça, c'est la gamme ZenBook.
Tout à fait.
Donc, chez Asus, qui est plutôt le haut de gamme. Et après, vous, quand on parlait du cœur de gamme, c'est la gamme VivoBook.
VivoBook.
Qui sont dans les, ça va de 400
à... De 400 à 800 euros.
D'accord.
Très bien. Les meilleures affaires aujourd'hui, on les fait où? Dans les magasins physiques ou sur Internet, Jonathan? Si je veux le meilleur prix, la meilleure promo.
Dire, sur Amazon, il y a quand même des offres assez impressionnantes.
Il y a Amazon, il y a les autres. Alors, j'ai envie de dire les deux. Parce qu'aujourd'hui, en magasin physique, notamment ce qu'on appelle nous les retailers comme Fnac, Darty, Boulanger, ils savent proposer des offres qui sont multicanales. Donc, ce qu'ils vont proposer en magasin, ils vont également le proposer en ligne.
D'accord.
Donc, on va avoir effectivement à la fois en ligne et en magasin. Nous invitons les gens à bien comparer et regarder ce qui leur correspond le plus.
Merci beaucoup Jonathan pour toutes ces précisions. C'était très clair et j'espère qu'on vous a aidé à choisir votre nouveau PC pour la rentrée. Merci Raphaël.
Merci François, avec plaisir.
Et on se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment, en Vie numérique chaque samedi matin 9h-10h sur RMC. Dans un